Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, la collégiale de la FEN, Afen & Co, le numéro 73. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet intéressant et important sur un très très beau salon, un salon Ludovia, qui est créé en province, qui marche bien depuis longtemps. Et donc, pour les entreprises, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec ce salon. Est-ce que ça a l'intérêt pour des responsables de formation ou des organismes de formation? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et on a la chance d'avoir avec nous Eric Foucault, qui est responsable du développement et des partenariats de Ludovia. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors Eric, dites-nous tout sur le salon. Ce salon représente quoi?
Alors, première chose, c'est que ce n'est pas un salon, c'est une université d'été. Hein, Ludovia, c'est université d'été, mais plusieurs universités, puisqu'en fait, il y a des universités d'automne et de printemps hein, en Suisse et en Belgique, et bientôt au Canada. Donc, dans l'université d'été, il y a la notion de production de contenu. C'est-à-dire que non seulement, bon, effectivement, il peut y avoir, comme dans les salons, des stands, hein, des exposants qui présentent des solutions technologiques. Il y a des conférences, des tables rondes. Et ensuite, il y a plein de formats de production d'informations qui sont ce qu'on appelle nous les barcamps, les explorecamps et tout un village communautaire.
Hein, alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les barcamps, avec
ouais.
Ça représente
alors, explorecamps, ce sont des formats d'ateliers exploratoires, hein, explorecamps. Qui sont assez sur des formats courts. Vous avez donc une salle d'explorecamp où il y a une dizaine de tables, des tables tournantes, et vous avez une présentation par un retour d'expérience d'enseignant ou de formateur pendant une demi-heure, des échanges de questions pendant 20 minutes, et après on change de table. C'est des sessions de 2 heures qui sont, je dirais, le format le plus prisé des Ludovia. Et les barcamps, alors il ne faut pas confondre bar et barcamp et bière, même si on a de la bière à Ludovia, hein, mais, ou d'autres choses. Mais le barcamp, en fait, c'est d'une réunion productive. Donc chacun est amène de produire de l'information. Donc il y a un animateur du barcamp, mais ensuite donc on va faire une réunion créative hein, autour d'une thématique où on sait où elle va pas. Donc l'idée, c'est de pouvoir ensuite faire une synthèse de ce qui s'est dit dans le barcamp et ça produit sur une thématique, une problématique qui a été engagée. Voilà. Donc je parlais ensuite des espaces communautaires. Donc chaque communauté d'enseignants ou des communautés de pratique ou utilisateurs hein, de solutions se réunissent à Ludovia sous des chapiteaux dédiés hein, à leur communauté. Et donc là, pareil, ils ont un programme qui leur est propre et ils lancent des défis entre communautés. Hein, donc, par exemple, ça peut être la compagnie du code, hein, des gens qui font du codage dans les écoles peuvent aller voir, enfin proposer à toutes les autres communautés un challenge ou une proposition pour améliorer en fait son activité de formation tout au long de l'année. Donc voilà. L'idée, c'est notamment au niveau de l'université d'été, c'est de pouvoir avoir un rassemblement physique de gens qui de toute manière se connaissent quand même tout au long de l'année ou se côtoient, ont les mêmes problématiques, se côtoient sur les réseaux, hein, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un monde très numérisé.
Est-ce que vous avez une plateforme pendant le reste de l'année sur laquelle ils échangent
Alors on l'a eu fait, hein, on a eu fait des plateformes d'échange post-événementiel. On s'est aperçu rapidement qu'aujourd'hui, les plateformes, il y en a des centaines, des milliers. Et souvent, les gens choisissent leur plateforme par rapport à leur communauté. Hein, donc, on ne va pas exiger ni imposer une plateforme dédiée. Ça, on l'a fait une année, deux. On a bien vu que chacun pouvait se retrouver dans d'autres trucs. Donc ça, globalement, après, il y a des communs. Hein, chacun se retrouve on est beaucoup sur Twitter dans l'échange. Mais après il va y avoir du Trello, il va y avoir plein de choses qui sortent d'ailleurs, hein, qui sortent aujourd'hui et qui sont utilisées ou abandonnées, hein, parce que ça, ça bouge beaucoup. Et donc voilà, on n'a pas choisi de choisir ou de préconiser tel ou tel type de plateforme.
Et si on prend la différence entre l'université d'été, l'université d'automne ou l'université de printemps, Est-ce que c'est le même format
Oui,
ou qu'est-ce
voilà,
que...
l'idée c'est, comme on a eu un grand succès et que les gens peuvent pas forcément se déplacer au fin fond de l'Ariège, hein, puisque ça a lieu dans les Pyrénées ariégeoises, dans un tout petit village de 1500 habitants, ce qui est aussi assez,
Exactement.
assez marrant, hein, vous parliez de province au départ, on en appelle ça la région, hein,
Tout à fait.
ça a changé, mais voilà, donc on est quand même au fin fond des Pyrénées, il faut venir à Ludovia, on peut pas venir pour la journée, ça c'est évident, il y a des gens qui viennent de France et du monde entier, hein, du monde francophone, hein, parce qu'on est quand même une université d'été francophone. Et donc l'idée, c'était de dire, ben voilà, on avait jusqu'à une quarantaine de Belges ou de Wallons qui venaient à Ludovia et qui se sont dit, ben nous aussi, on aimerait bien pouvoir faire ce principe-là d'échange entre communautés chez nous. Et donc on a, bien entendu, exporter le concept. Donc ça a lieu à Spa pour la Belgique et ça a lieu à Yverdon-les-Bains pour la Suisse.
D'accord.
Voilà.
Et c'est piloté par des équipes autonomes ou vous les drivez un peu pour leur donner un peu
Alors
des
nous,
bonnes
on
pratiques?
est coordinateur et puis il y a une sorte de communauté ouverte, hein, donc quelque part, chaque aujourd'hui, puisque ça a démarré il y a quand même 3 ans, chaque université ou chaque campus, hein, parce qu'il y a des petits Ludovia, il y en a eu en Polynésie au mois de février, il devait y en avoir un au Qatar, mais en fait ils viennent d'être annulés pour des raisons que tout le monde connaît en ce moment dans les événements, bah, tout ce qui est coronavirus a un peu plombé. D'ailleurs, la Suisse risque d'annuler cette année aussi, pour ces raisons-là. Mais ce sont des beaucoup plus petits événements et il n'y a pas de colloque scientifique. La particularité de l'université de printemps, d'automne, d'hiver, hein, puisqu'il y en aura 4, c'est qu'elle est accompagnée d'un colloque scientifique. Donc il y a une thématique scientifique qui se dégage sur l'université et elle est déclinée tout au long des 3, voire 4 journées de la manifestation. Sur les campus Ludovia, il n'y a pas de colloque scientifique, donc il n'y a pas de prise en main par un comité de recherche sur des interventions de communication scientifique. À Ludovia, vous avez pendant 4 jours entre 30 et 40 communications scientifiques sur le thème de l'année. Voilà.
D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une partie scientifique de réflexion. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des ateliers qui sont où on développe l'idée maker? Est-ce que c'est ça un peu la philosophie?
Alors bien sûr, ça nous, le côté maker, ça a été fait depuis le début. Hein. Je dirais que depuis, bon, l'université d'été a été créée en 2004, hein, au fin fond de l'Ariège, comme je le disais.
Alors qui
Rapidement,
c'est qui l'a créé?
hein,
Qui c'est qui l'a
pardon?
créé? Qui c'est qui a eu
Alors,
cette idée de travailler
ben,
dans une
moi
région comme l'Ariège?
j'en ai eu l'idée. Bien entendu, quand on a des idées, on n'a pas forcément de l'argent. Donc, on est allé chercher donc forcément des financeurs publics. Et cette université d'été a une forte vocation attractive, hein, pour le département de l'Ariège, puisqu'elle symbolise les efforts qui sont faits par le département en matière de développement du numérique, hein, des usages, la construction de réseaux haut débit, hein, puisque le département a créé son propre réseau en 2005. Donc on a été un outil, un véhicule, je dirais, de communication
Et
qui
alors,
présentait
pour être
l'Ariège.
complet sur le démarrage, d'où vous avez parlé pour lancer cette idée? Vous êtes dans l'université, vous êtes avec une structure privée dès le départ, ou des
Non, en
potes?
fait, non, ben, il y avait une agence de développement économique qui a suivi l'idée. L'idée, c'est de mettre une focale sur la politique du département. Et donc, ça a été fait rapidement dans ce contexte-là. Et on a rapidement fait venir ben, plein de gens de Paris, hein, notamment,
Exactement, oui.
pour s'intéresser à nous, parce que la vocation, c'était aussi de s'intéresser au département. Et voilà, quoi. Alors, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, bien sûr.
Et c'est assez extraordinaire, je trouve, comme expérience, pour montrer qu'un territoire qui n'est pas spécialement connoté numérique, parce qu'il y a une volonté de création de quelque chose, il y a eu du collectif qui a créé une histoire, dans ces cas-là, ça a été connoté, donc on a requalifié un territoire en fonction de ce qu'on voulait en faire. Et ça, c'est assez magique, parce que ça, c'est duplicable dans d'autres secteurs. Donc ça, bravo. Vous disiez que c'était une très belle réussite. Combien de personnes, quelles sont un peu les métriques?
Alors les métriques, ben en 2004 on était 100, et
Hein?
puis
C'est très bien.
aujourd'hui on est 1000, et on est obligé plus ou moins il y a un numerus clausus, hein, c'est-à-dire qu'en fait au-delà de 1000, c'est compliqué pour nous d'accueillir des gens, hein, comme je vous le disais, on peut pas venir à la journée. Sauf en étant de Toulouse, à la limite, on peut faire un aller-retour. Donc, il faut forcément manger là. Bon, ça, c'est facile, puisqu'il y a quand même une vingtaine de points de restauration dans le village, hein, qui sont partenaires de notre événement. On produit, on fait venir des restaurateurs aussi sous la forme de. Alors, le nom m'échappe aujourd'hui, mais des food trucks, hein, ben, c'est en anglais. Donc, pour pouvoir assumer cette restauration. Donc, déjà,
Oui, bien
c'est quand
sûr.
même pas mal. Vous êtes sur les 1000 personnes. On a environ 800 personnes à midi chaque jour qui mangent. Pour faire manger 800 personnes plus les quelques touristes qui restent dans le village, on est proche de la saturation.
D'accord.
Et sur l'hôtellerie, ben c'est pareil, c'est-à-dire qu'en gros, comme on veut rester 2 jours, ben il faut trouver un hôtel. Et donc, on ne veut pas non plus que les gens aillent se balader à 100 km de Lidovia. Fait qu'aujourd'hui, on a ce point de maximum, hein, de 1 000, 1 200 personnes pour Ludovia. On ne peut pas aller au-delà, ça serait trop compliqué. Alors, ce qui est bien pour le coronavirus, c'est qu'on est à 1 000, hein, donc
Très bien,
on se rapproche.
oui. Un bon
Si
point.
les choses évoluent favorablement, on n'a pas de risque d'être interdit. Voilà.
Et puis en plus, il y a le bon air local, donc ça,
En
c'est.
plus, oui, on a le meilleur. En Ariège, je tiens à le préciser, nous avons le meilleur air de France.
Très bien.
Voilà.
Donc ça, c'est des choses qui comptent en ces
Ah oui, ça
temps-ci.
compte.
Exactement. Donc quand on parlait des thématiques qui sont abordées,
Oui.
globalement, quelles sont les thématiques que vous avez déjà un peu abordées dans les colloques
Alors,
scientifiques?
il y a eu une bascule qui a été fonction de la maturité des usages du numérique dans la formation et l'éducation. Au début, hein, de 2004, aux alentours de 2004 jusqu'à 2010, on avait des thématiques qui étaient proches sur les outils. Hein, on a découvert, comme tout le monde, les tablettes. Donc, à un moment donné, il y a un sujet mobilité et tablettes, le smartphone. Voilà, donc on avait des thématiques techno. Aujourd'hui, on est plutôt dans une thématique. Bon, cette année, je vous donne un exemple. On parle de l'injonction du numérique. Donc, on n'est pas sur un schéma philosophique, mais presque. C'est-à-dire qu'en gros, on voit qu'effectivement, la société qui nous entoure, elle est dans l'injonction du numérique en disant bah, les métiers vont changer. Si vous n'êtes pas sur le numérique, ben, vous n'êtes plus rien. Vous êtes obligé de payer vos impôts. Voilà. Donc aujourd'hui, sans numérique, la société n'a plus grand-chose. Et donc, quelle est la réaction en fait en salle de classe ou en salle de formation par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des. Au-delà du techno-enthousiasme de départ, qu'est-ce qu'on en retient, comment on utilise et qu'est-ce qui est le mieux, quelque part, à utiliser. Souvent, on a été taxé d'intégristes du numérique, hein, des proactifs de l'usage en classe. Ça a pu être le cas dans le passé parce que c'était l'ambiance qui était portée par le ministère, hein. Il fallait utiliser des techniques, hein, plus informatique autre. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'usage pédagogique en se disant, bon, voilà, il y a plein d'outils, tout le monde les connaît aujourd'hui, même s'il y a quelques petites évolutions qui vont vers l'intelligence artificielle aujourd'hui. Comment l'appréhender et comment l'utiliser? On cite souvent un cas assez flagrant, hein, d'usage bête et méchant de la technologie en pédagogie. C'est-à-dire que on a une photo, alors on est en radio, donc je vous l'explique. On a une photo de classe des années 50 ou 30 avec un professeur devant un tableau vert et puis des élèves alignés. Et puis, on dit, ah ouais, aujourd'hui, le monde a changé, il y a la technologie. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui sont devant un tableau blanc avec un professeur devant et des élèves alignés. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Je
On
vous le
a même
demande.
retiré la couleur.
Voilà. Donc, en fait, voilà, c'est un peu cet aspect critique de la technologie. On est rentré dans une phase critique en disant, bon, oui, c'est fini, l'optimisme béat de la technologie, c'est génial. Qu'est-ce qui est le mieux pour les apprenants? Voilà.
Effectivement, c'est de la maturité, on commence à rentrer dans la
Voilà, on est en
maturité.
maturité, et ça fait déjà 5-6 ans qu'on a basculé sur une thématique. Ben, qu'est-ce qui est essentiel? C'est le plaisir d'apprendre, comment on peut le faire avec les nouvelles technologies ou pas. Donc là, je vous parlais d'injonction, il y a des problématiques d'organisation aussi sociétale, l'organisation de l'établissement. On sait que la problématique, notamment au niveau du ministère, c'est souvent on a des convaincus que le numérique est utile dans un établissement, mais il est tout seul. Donc en fait, bah, ce sont des personnels qui, à un moment donné, s'essoufflent, malgré qu'ils soient portés par une politique ministérielle. Bah, ils sont seuls dans leur établissement, puis à un moment donné, bah, ils en peuvent plus, ils arrêtent. Et donc quelque part, voilà, c'est souvent ce sens pratique dans les établissements qui fait défaut. Et donc on essaie de trouver des bons exemples. Alors ce que je voulais dire, c'est que vous parliez de salon. On a des solutions techno. Hein, on a des solutions techno dans les ressources, dans les plateformes aujourd'hui. Bah, par exemple, les plateformes, c'est la grande mode, hein, parce que quand on voit que quand on va fermer des écoles, bah, il faudra. Heureusement qu'il y a du numérique, parce que là, ça serait compliqué. Mais on met souvent en avant des enseignants, des formateurs, des enseignants qui sont sur le terrain et qui ont trouvé une bonne petite idée. Et donc, on fait un appel à contribution. On a beaucoup, beaucoup d'appels à contribution. On invite chaque année, je crois, une trentaine d'enseignants qui ont été sélectionnés et qui montrent leur pratique en classe et qui fonctionnent bien. Et ça marche super bien parce que les autres enseignants viennent pour rencontrer ces gens-là qui ont eu la bonne idée et qui ont la bonne pratique et pour pouvoir s'en inspirer et repartir avec leur cartable à la rentrée avec ces nouvelles idées, nouvelles pratiques.
Ça veut dire qu'on prend énormément d'informations. Est-ce qu'il y a aussi de la réflexion, comme on parlait des enseignants, par exemple aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de plateforme dynamique qui puisse se dupliquer, qui crée, qui constitue le lien avec l'écosystème, privé, public, peu importe, on y reviendra. Mais en tout cas, est-ce qu'on réfléchit sur la constitution de l'écosystème, avec pourquoi est-ce que c'est pas financé, éducation nationale, il y a des ventures capitales qui peuvent faire des choses intéressantes. Pourquoi il manque des morceaux dans l'écosystème? Et est-ce qu'on les identifie? Est-ce qu'on travaille un peu pour se dire, on n'est pas simplement des éléments, des individus, mais on repense l'ensemble de l'écosystème?
Alors, pour parler éducation nationale, hein, l'éducation nationale a produit des plateformes, hein, des plateformes de formation, des plateformes en réseau, hein, le réseau Canopé avait sorti il y a combien d'années? Ouais, au moins 4-5 ans, une grosse plateforme où tous les enseignants pouvaient se regrouper. L'histoire montre que quelque part, la grande plateforme n'existe pas et n'existera jamais, elle fonctionnera jamais à bon escient. Bah, déjà, parce que à partir du moment où on a une injonction pyramidale qui dit, bah, t'es, voilà, ça
Oui, c'est ça,
c'est la plateforme
ouais.
officielle. Bah,
Exactement, ouais.
forcément, dans un contexte où la liberté pédagogique prévaut, c'est compliqué à gérer. Donc les meilleures choses ne sont pas forcément sur cette plateforme. Y compris dans les entreprises, hein. Je veux dire, dans les entreprises, vous avez des plateformes qui tentent d'être imposées et quelque part, on sait que la richesse du contenu, elle est jamais dans ces plateformes-là. Elle est toujours dans des plateformes un peu parallèles, hein, ou des mondes parallèles. Donc ça, moi personnellement, j'y crois pas. On a tenté, hein. Ça fait quand même 17 ans qu'on est sur ce sujet-là, donc on voit très bien que ce n'est pas possible. Et après, ben, d'un point de vue technologique, je dirais que les plus grosses sociétés, je ne vais pas citer les noms, mais apportent des outils technologiques qui ont une fluidité extraordinaire, qui font que c'est toujours très compliqué d'essayer d'être au niveau. Hein. Donc en face, vous avez donc un produit ministériel ou pas qui est proposé, même par une petite entreprise ou une bonne entreprise moyenne. Hein. On a vu des espaces numériques de travail. Il faut des efforts colossaux en termes de développement pour arriver à des niveaux de qualité, de fluidité de plateforme et d'ergonomie de plateforme qui font que bah, quand vous tournez un petit peu sur ce qui est utilisé au quotidien, vous dites, bon, c'est quand même toujours pas évident de le traiter. Donc ça, c'est quand même stratégiquement ou géopolitiquement parlant, c'est compliqué, notamment quand on touche au secteur de l'éducation, hein, parce que là, ça veut dire qu'on s'en remettrait à des plateformes, entre guillemets, étrangères ou américaines, et une indépendance par rapport à ça est compliquée à gérer. Mais ben, on a connu en France les grands plans informatiques, hein, avec des bulles, avec des choses, et ça n'a jamais trop fonctionné. Donc ça, bon, il faut reconnaître qu'on ne sait pas faire, même s'il y a des startups qui ont des velléités pour le faire, ça sera des sous-ensembles. On va
Exactement.
réussir à agréger des communautés de pratique sur des choses particulières. Et il y aura plutôt une multiplicité de plateformes plutôt que la grande plateforme centrale que tout le monde utilise malheureusement.
Parce que la même chose avec l'entreprise, puisque l'entreprise se retrouve dans la même situation, Accor n'a pas créé Airbnb, parce que quand on est une grosse structure, on a des rigidités, et donc si ça tombe d'en haut, on n'a pas cette agilité, cette expérimentation, cette façon de se réinventer. On voit FunMook, par exemple, qui est une très belle plateforme, mais une plateforme qui est finalisée, qui se réinvente pas. Depuis 2013, ça n'a pas bougé d'un iota. Il y a un peu plus de monde, donc ça augmente un peu quelques métriques, mais ça n'a pas créé l'écosystème de MyMOOC, par exemple.
Et c'est ça.
Voilà, et donc c'est
Oui,
cette agilité.
il y a des nouvelles plateformes de MOOC collaboratives, hein, on va dire beaucoup plus ouvertes, qui dérangent toujours les institutions. À partir du moment où on parle de open quelque chose ou de d'écosystème ouvert, oups, ça pose question au niveau sécurité. On est bien d'accord, hein, ça c'est le souci de la responsabilité en fait de l'administration, c'est la sécurité. Vous êtes responsable quand vous devez gérer, hein, vous êtes responsable de tous les gamins, des codes que vous attribuez, l'RGPD et tout ce que vous voulez. Donc, c'est toujours très compliqué. Donc, entre des modèles théoriques où chacun peut être responsable, donc qui sont des modèles ouverts, et des modèles assez sécurisés, il y a toujours un monde entre les deux. Et ben, je veux dire, bon, ben, la vérité peut-être au milieu, je ne sais pas, c'est Confucius qui disait, mais ça doit être ça, quoi.
Mais c'est pour ça aussi qu'avec EdTech France, par exemple, l'éducation nationale fait des partenariats, on se rencontre, on se sent quelque part, mais on ne sait pas bien quoi faire. Hormis avoir un client, on achète, mais ça on a l'habitude, c'est des fonctions d'achat. On ne sait pas comment créer un écosystème, profiter de leur vitalité, comment est-ce qu'on l'intègre. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas cette dimension. Donc il y a des choses encore à faire, heureusement, parce que c'est comme ça qu'on a Ludovia, qui permet de réfléchir sur ces sujets-là. J'avais une question que je me posais. Il y a des gens qui ne sont pas du tout alertes avec le numérique. Est-ce qu'il y a des ateliers pour les débutants, des professionnels, des professeurs ou des responsables de formation des entreprises qui disent, moi je découvre, est-ce qu'on peut m'aider? On parlait de Twitter, il y a des gens qui sont pas, qui n'utilisent pas du tout ce secteur, cet outil, qui est magique comme tous les outils quand on les utilise. Est-ce qu'il y a des éléments pour personnes qui veulent s'initier?
Alors, l'écran, justement, ça a toujours été un problème à Ludovia qui a été posé. C'est-à-dire qu'au début, quand on était une centaine de joyeux de riz à se réunir, une personne qui débutait en la matière pouvait éventuellement s'y retrouver. Il y a quelques années, on a une délégation de jeunes profs qui est venue, il y en avait pratiquement une centaine qui ont été plus ou moins accompagnés par l'Académie de Toulouse et qui est venue à Ludovia. On avait fait un petit chemin tracé en disant, ben voilà, vous allez venir à une petite table ronde et ensuite vous allez voir un peu quelques ateliers, etc., etc. Vu le foisonnement qui existe à Ludovia, ça a fait très peur. C'est-à-dire qu'en gros, les enseignants qui démarrent, d'accord,
Bien sûr.
un peu erreur, se sont retrouvés à se concentrer sur ce qu'il fallait faire et essayer de comprendre un peu et de répercuter en fait ce qu'on leur avait appris en classe et découvrir tout cet écosystème foisonnant d'idées nouvelles en matière de pédagogie, d'outils un peu complexes, ça a été un peu la cata. Donc, on a depuis 2-3 ans créé enfin, on a fait ça un peu en même temps que les open badges. On a des badges, des vrais badges, avec des gens qui vont être des facilitateurs, qui vont accompagner les nouveaux pour les amener sur des lieux où ils vont pouvoir chercher des choses. Parce que quand vous vous retrouvez avec une immensité de choses, vous allez être perdu, c'est évident. Ensuite, donc ça pour les primo-accédants, on va dire que on a trouvé la petite solution d'accompagnement. Pour la personne qui, elle, est qualifiée, par exemple, dans le numérique, en maths, mais qui connaît rien à Twitter, ben forcément, la communauté des Twitternautes, il va venir sous sa tente, hein, sous son espace, hein, on appelle ça les tentes académiques, mais c'est des espaces de communauté de pratique, et ben, d'autres enseignants, donc on parle de pair à pair, hein, vont leur expliquer et il peut suivre, un petit stage de 2 jours et demi s'il veut se concentrer sur ce sujet-là à Ludovia, et repartir avec son badge tweeté en poche et aller l'utiliser en classe. Donc, bien entendu, c'est aussi l'idée de dissémination. Mais on n'est pas là pour se substituer à des plans académiques de formation qui vont prendre des gens qui n'y connaissent rien et les former en 2-3 jours, c'est pas possible. Donc il faut avoir un minimum d'appétence par rapport au sujet, avoir un peu de pratique, et on est plutôt sur de l'amélioration, de la découverte d'autres champs d'investigation, toujours pareil de pair à pair, hein, donc on discute avec des enseignants ou avec des constructeurs ou des éditeurs. On a peu parlé, bon, vous avez parlé d'EdTech France, hein, ou des industriels au sens large, parce que moi je suis aussi le sujet à FINEF. Globalement, notre intérêt quand on a développé l'université, c'est justement de croiser en fait les regards, parce que un industriel, il a de bonnes idées, hein, une start-up, il se dit bah ça c'est génial, etc., etc., etc. On lui fait rencontrer à chaque fois, nous on accompagne les start-up, hein, on a un espace spécial start-up, et on leur fait rencontrer des gens du ministère, parce qu'il y a une cinquantaine de personnes, hein, de la direction du numérique qui viennent chaque année à Ludovia, pour leur faire comprendre qu'en fait, au-delà de leur idée, ben, il y a des contraintes liées. hein, aux facteurs éducation nationale, à protection des données, responsabilité des établissements et des académies, pour qu'ils puissent caler leur offre par rapport à la réalité de ce que c'est l'éducation, et de se rendre compte ou pas qu'il y a un business model à mettre en place. Et ça a été le cas, hein. Chaque année, on a confronté des jeunes startups qui s'imaginaient plein de choses et qui se sont retrouvés à réorienter en fait leur offre, parce qu'il faut qu'on nourrisse effectivement le système avec des nouvelles propositions. Hein. C'est pas dire non, non, mais attendez, les startups, ils n'y comprennent rien, restez chez vous. Non, au contraire, ça nourrit toujours le système. C'est l'idée en fait de Ludovia. Nous, à chaque fois, on se renouvelle aussi, on nourrit avec des nouvelles expériences, des nouvelles idées, des nouvelles communautés qui enrichissent l'université. C'est pour ça qu'en fait, on est aussi connu. C'est que quelque part, c'est pas toujours la même chose chaque année. On va retrouver toujours des choses un peu nouvelles et qui font que ben, chacun va retrouver quelque chose pendant 3 jours, et eh bien avec des bonnes idées, que ce soit un enseignant ou que ce soit une start-up. On a eu Classroom qui est venu il y a 2 ans et il est reparti totalement motivé. Bon, il a eu la chance de rencontrer une ministre de l'Éducation nationale au cours d'un repas, donc ça, il était très content. Mais voilà, donc il y a tout ce truc très très important à Ludovia qui fait qu'on a toujours une expérience utilisateur, hein, comme c'est
Oui, très
utilisé
bien.
comme terminologie, de 3 jours où on fait waouh.
Et c'est très important parce qu'il n'y a pas d'incubateur dédié aux startups de l'EdTech, aux gens qui se lancent dans les technologies. Et ce qui fait que même s'il y a deux venture capital qui sont spécialisés sur l'accélération, donc ce qui vient après, quand le modèle est un peu fonctionne, ils se retrouvent à court d'entreprise. Il n'y a pas ces pépinières où les gens s'essayent, se disent j'ai un concept, je vais essayer de faire un POC, comme on dit, pour justement tester le concept. Ça n'existe pas, et comme il y a peu d'herbes, de jeunes pousses, finalement, il n'y a pas d'accélérateur, et donc le modèle, l'écosystème est un peu, sort un peu des frontières, donc est un peu pauvre en France. En tout cas, il n'y a que deux venture capital dédiés à l'EdTech. Hein.
Alors c'est
Et
pour
c'est
ça que
très bien.
nous, pour 2 choses, hein, c'est que, et après, moi, je pense si on a encore le temps, nous, on a toujours un peu appuyé cette démarche jeunes entreprises, parce qu'effectivement, il faut en produire. Et c'est pour ça que Ludovia va à l'international,
Oui, très
parce
bien.
que le marché français est petit, hein, donc ça, il est clair, c'est qu'on est sur la francophonie, et la francophonie qui a un peu de moyens, elle est assez restreinte. Donc une entreprise française qui démarre que sur le marché français a toute chance d'avoir du mal à se développer. Ça, c'est évident. Deuxièmement, pour les entreprises qui sont là depuis des années, tout le monde vous le dira, le marché de l'éducation est un marché très complexe, très compliqué, très difficile à aborder. Il y a des gens qui se sont essoufflés et qui ont abandonné, hein, le secteur. Donc ça, il faut le savoir également. Mais donc voilà, nous on essaye d'accompagner, hein, autant que peut se faire se peut sur les 3-4 jours, ces petites entreprises, avec l'internationalisation de Ludovia sur les mêmes. On va franchir l'Atlantique dans quelques mois. C'est de se dire, bah, nous on connaît bien l'écosystème de Ludovia, on y vient souvent, hop, allez, ils vont nous accompagner au Canada ou en Belgique et autres. Et là, on va arriver à des choses. Et c'est l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire que les
Bien
Belges
sûr.
aussi, ils ont des petites startups. Les Suisses aussi ont des petites startups. Et il va y avoir un échange. Globalement, c'est pour ça que je parle de francophonie. C'est le problème, hein. C'est le problème de l'éducation. Globalement, c'est la langue. Et donc, on a un périmètre relativement limité. Et quand vous êtes aux États-Unis, wow, vous avez tout de suite un marché anglophone monstrueux que vous pouvez développer aussi sur l'Angleterre. Donc, on n'est pas du tout sur la même dimension. Et ça, c'est souvent le problème.
Oui, bien
La
sûr.
plupart du temps, notamment dans les ressources, hein. Les ressources sont, c'est évident que les pratiques sont différentes.
Donc
Voilà.
très très bien, très bel écosystème, et puis pour le compléter, et l'entreprise dans tout ça, est-ce que ça a une place à Ludovia? Est-ce que c'est fait pour justement l'éducation nationale, entre l'éducation nationale? Est-ce qu'il y a une place pour les entreprises privées?
Oui, alors les entreprises privées peuvent avoir des espaces communautaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une entreprise Alors, elles peuvent avoir un stand, hein, mais c'est clair. En général,
Le
les
prix d'un
startups,
stand quand on est sponsor, c'est combien?
ça peut démarrer à 300 balles, hein, donc c'est
Ouais,
300 euros,
très
c'est
bien.
pas grand-chose. Justement, c'est qu'on cherche à avoir des entreprises. On sait que c'est compliqué de venir en Ariège, hein, donc entre le temps qu'il faut de venir, de se payer l'avion, de venir en voiture, on n'est pas là pour matraquer. Et en plus, on a toujours été un événement où on met toujours l'entreprise au centre. Moi, à chaque fois, je le précise. Je le précise quand on ouvre l'université, en disant que ben, il n'y a pas d'un côté le privé et puis d'un autre côté les enseignants. On est tous dans la même galère, on va
Oui,
dire.
c'est ça.
Tout le monde essaie de trouver son chemin et tout le monde peut apporter des choses. Et donc, on n'est pas à mettre, oui, dans un couloir, vous voyez, les entreprises caution qui vont nous financer le cocktail. Ça n'a jamais été mon truc. C'est plutôt, non, voilà, on veut que les entreprises puissent aller dans des export-camps, présenter des trucs, échanger, montrer qu'il y a des enseignants qui utilisent leurs solutions et comment ça se fait, être critique et échanger. C'est nous pour nous. Si vous voulez, il n'y a pas d'un côté les exposants et d'un autre côté les participants. Tout le monde est participant à
Ah,
Livolia,
très bien.
hein. D'ailleurs, tout le monde paye sa place. Bon, voilà, vous êtes tous concernés, tous
Le prix de la
bénéficiaires.
place, c'est combien?
Alors, l'entrée de Livolia, c'est 40, je sais plus quoi, 49 euros de mémoire. Et quand on est dans une communauté, on a un tarif communautaire, hein, qui est dans les 30, 39. Bah,
Donc
ce qui,
abordable.
oui, ce qui n'existe pas dans un salon, je ne sais pas si vous avez remarqué,
Absolument,
hein,
oui.
c'est-à-dire que l'enseignant, c'est gratuit pour lui, donc quand c'est gratuit, c'est lui le produit.
Oui,
Oui, donc,
exactement, c'est ça, tout à fait.
non, nous les gens, en dehors des invités, hein, bien entendu, on invite des gens à Ludovia, mais on estime que voilà, si tout le monde doit contribuer quelque part au cofinancement de cette université d'été ou de printemps.
Alors, certains salons sont payants, par exemple, Learning Show.
Ouais.
Reçoit une subvention de la région ou du département, je ne me rappelle plus. Mais à
Mmh.
côté de ça, ça permet de décrémer et de prendre des gens qui sont plus motivés parce qu'ils payent, et c'est des montants qui sont beaucoup plus élevés, hein. Donc,
C'est clair, là nous on n'est pas dans ça. Nous c'est simplement, voilà, on aurait pu, comme ça se fait beaucoup au Canada, hein, dans toutes les organisations au Canada qui touchent de l'éducation et du numérique d'éducation, la moindre inscription, on est sur du 300 $ canadiens, vous voyez, donc c'est pas du tout la même approche, on va dire.
Et sur le Canada, vous allez, parce que beaucoup de personnes sont intéressées pour se dire le Canada, Sherbrooke, etc. Vos points d'accroche au Canada, c'est quel
Alors nous, on y
domaine?
réfléchit, hein, on connaît le Canada depuis longtemps, puisqu'en fait, on a beaucoup de Canadiens qui viennent à Ludovia, on a des grands noms de l'éducation numérique qui sont venus à plusieurs reprises, hein, sur Ludovia, hein, des chercheurs comme des hommes politiques aujourd'hui, hein, qui sont députés et qui vont peut-être finir ministre de l'Éducation au Québec. Donc ça, on a une très grosse amitié franco-canadienne à Ludovia. On est en train de regarder sur l'aspect communautaire comment en fait insérer la logique Ludovia au Canada, puisqu'il y a quand même pas mal d'événements importants sur le sujet au Canada, en imposant plus ou moins cet esprit, hein, qui a toujours été sur Ludovia, qui est un peu différent. Bon, même si les Canadiens se sont inspirés de nos pratiques, hein, depuis qu'ils viennent à Ludovia, on essaie de retrouver quelque chose. Donc je peux rien vous dire aujourd'hui, mais c'est voilà, l'idée c'est de pouvoir faire un Ludovia qui ressemble à Ludovia France ou Ludovia Belgique ou Suisse au Canada, pour garder vraiment cet esprit Ludovia. L'intérêt pour tout le monde, c'est qu'effectivement, il y a des relations entre les différents
Bien sûr.
Ludovia qui vont rajouter quelque chose d'intéressant au niveau international dans la francophonie. Mais ça va être la deuxième étape, je dirais, du challenge.
C'est tout le charme de l'interculturel, c'est de voir des gens, on se retrouve sur un commun qui peut être le numérique, mais après chacun le regarde de sa façon. Il y en a qui sont plus makers, il y en a qui sont plus intellectualisants, etc. Chacun a ses pratiques et ses entreprises, et ça permet de se dire comment ce qui m'est étranger me regarde, et donc finalement comment je me regarde dans mes pratiques. C'est ça qui est intéressant.
Oui, comme vous parlez de maker, bon, nous on a fait un séminaire tiers-lieu l'année dernière pendant 2 jours, hein, il y a eu une cinquantaine de tiers-lieu éducation qui sont venus sur Ludovia. En fait, on s'est aperçu, ben, qu'en Suisse ça se faisait pas trop, qu'il y avait des petits jeunes qui tentaient le coup, hein, il y avait des makers qui étaient au milieu d'une école et que c'était pas valorisé, alors qu'en France, ben, ça commençait à être valorisé. Donc l'idée c'est de transposer en fait l'idée française et d'aller la présenter en Suisse ou en Belgique, et du coup que voilà tout ça puisse se disséminer. Donc il y a des choses en Belgique qui existent et qui n'existent pas en France, et ben on essaie de les faire venir en France pour montrer, ben, comment le système wallon, hein, puisqu'on parle de francophonie, propose des choses, et en espérant être inspirant pour le côté français, voilà.
Donc, si vous avez des contacts dans la francophonie, ça va être un axe important pour la FEN, puisqu'on va développer format radio en francophonie. Et donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est les mettre en visibilité pour le montrer, les interviewer comme on le fait là, de façon à ce qu'ils gagnent, s'ils le désirent, en tout cas, qu'ils nous permettent de réfléchir. Et puis, ceux qui sont intéressés, on a quand même une belle communauté en Suisse, francophone, dans ces cas-là, qu'ils puissent les contacter et ça étoffera le talent, être une vitrine pour les gens qui font des belles choses. C'est ça qui est important. Alors, si vous deviez dégager un peu les tendances sur la formation, qu'est-ce qui a l'air d'émerger sur quoi quelqu'un qui aimerait réfléchir, se projeter, les domaines qu'il doit travailler, on parle d'IoT, alors certains parlent de blockchain, etc. Ou alors sur les communautés apprenantes, qu'est-ce qui a l'air de sortir, si vous avez un conseil à quelqu'un?
Alors moi je dirais que à aujourd'hui on est sur un palier. C'est-à-dire que depuis quelques années, moi j'ai observé effectivement il y avait des tendances. On a eu la classe inversée, on a eu le phénomène des MOOC qui est apparu et bon qui a été plus ou moins négligé. Là on a l'intelligence artificielle qui pointe son nez avec des belles Alors bon, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a un peu de tout, hein, on est d'accord, hein, le moteur d'inférence et autres, ou le bot, hein, tout simplement. Il y a des belles réalisations qui sont faites sur ce genre de choses, notamment, je ne sais pas si vous connaissez Devoir fait du CNED, par exemple, qui utilise un bot. Donc on voit bien que même des institutions type CNED, hein, qui peuvent être des fois un peu galvaudées en se disant, ouais, c'est une vieille maison, ils sont pas au goût du jour. Si, 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 ce sont des gens qui vraiment travaillent beaucoup sur le big data et donc pouvoir utiliser justement tout ce qui est trace d'utilisation de plateformes pour pouvoir améliorer en fait la formation en ligne, et on voit que ben, aujourd'hui ça peut être crucial. Donc il est clair que dans ces plateformes où on va avoir des quantités d'usage importants, ça va être quand même un élément assez important de l'éducation dans le futur. Ça, c'est clair. Alors, effectivement, c'est la grande peur, hein, comme le numérique a été la grande peur pour les enseignants, en disant, bah, attendez, on va nous remplacer, hein, il y aura des
Exactement.
robots à la place des enseignants, etc., etc. Mais il est clair que, comme je dirais, comme Cannes, hein, là, ben voilà, il va y avoir un problème d'épidémie. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, on est obligé d'avoir un espace numérique de travail, hein, ou alors une
Bien sûr.
plateforme vidéo pour pouvoir donner des cours. Hein. Encore ce matin à France Inter, il y avait un exemple d'enseignant qui faisait classe avec ses petits élèves. Là, il y avait 14 gamins devant lui, comme s'il était dans sa salle de classe. Donc on voit très bien que ça remplace pas du tout l'enseignant, hein, puisqu'il est toujours là. C'est lui le
Bien sûr.
coordinateur de tout ça. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui fait peur. Mais on voit qu'il y a des choses qui, effectivement, avec les big data, peuvent vraiment ajouter un plus, un supplément de ce que propose l'enseignant aujourd'hui. C'est lui le pilote, quelque part, de sa pédagogie en formation ou en classe. Il y a des petits outils ou des outils assez importants qui permettent de l'aider au quotidien. Et puis ensuite, en classe ou en cours de formation, quelle va être la grosse tendance? Moi, je pense qu'il n'y a pas de grosse tendance. On est plutôt, aujourd'hui, c'est pour ça que notre thème, par exemple, cette année, qui est l'injonction du numérique entre techno-enthousiasme et pratique réelle au quotidien. Hein. Donc, aujourd'hui, on est à une maturité. Donc, en classe, on va avoir de plus en plus des enseignants, des formateurs qui auront une culture des outils numériques, une culture du numérique au sens large, qui va permettre de leur faire appréhender les excès ou les utilités réelles de ces technologies. Ce que j'avais pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, moi, à Ludovia, il y a des gens qui venaient, c'était des fans d'une techno et ils ne jugeaient que par ça. Ils réfléchissaient même plus, ils étaient dedans. Et voilà, il fallait utiliser le numérique dans tous les plateformes, les machins, etc. Aujourd'hui, avec la maturité de certains, parce que tout le monde n'est pas encore arrivé à
Bien sûr.
ça, on va avoir des gens qui vont dire, ben voilà, moi je vais faire du picking, un peu hein, comme on fait en logistique. Je vais composer ma classe comment moi je me le sens, puisqu'en fait on est des humains, donc chacun a une personnalité propre. Et donc quand on a la maturité, on est capable de pouvoir ajouter les choses. Et puis au-delà, ben, il va y avoir donc le côté plateforme de connaissances qui vont permettre d'aider des élèves. ce qu'on faisait il y a 10-15 ans sur les fameuses CD-ROM ludo-éducatifs, hein, les fameuses CD-ROM qui, je sais plus où ils sont d'ailleurs, on a
Oui,
tous eu peur sur les ordinateurs,
c'est
mais en gros, moi j'ai vu des pratiques en classe, l'enseignant bah, faisait sa classe, et puis à côté, bah, il y avait l'élève en difficulté, ou même l'élève qui n'était pas en difficulté, qui était meilleur que les autres, plutôt que bah, le laisser attendre que les autres comprennent les concepts. On le met sur un petit logiciel, il va aller plus vite que les autres, ou alors il rattrape le niveau sur les autres. Et ça dérange personne, et c'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. Donc, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aura plus d'enseignants qui vont faire du tronc commun. Voilà, toute la formation pour tous, la même, en même temps. On va avoir véritablement des professionnels de la distribution de cours. Et c'est ça la grosse tendance. Donc ça va, elle va pas être technologique, même si l'IA aide sur certaines choses pour apporter des connaissances, mais ça on en parle il y a 15-16 ans,
Oui,
hein, donc
bien sûr.
il n'y a pas de nouveauté, mais effectivement ça peut apporter des choses très très importantes.
L'arrivée des GAFAM, des BAT, donc des Américains et des Chinois, c'est quelque chose qu'on ressent dans l'éducation, vu qu'ils ont des licornes, donc des entreprises évaluées à peu près à 1 milliard. Donc ça veut dire des potentiels importants. Nous, on n'en a pas dans notre domaine. Donc ça veut dire qu'effectivement, est-ce qu'on les voit arriver ou on se dit c'est encore loin, c'est pas notre préoccupation?
Alors, de toute façon, les GAFAM, ils sont là. Ils sont là et ils sont utilisés, hein. Qui n'utilise pas les Google Forms, les Google Sheets et toute la tiraille de ce que propose Google. Il y a plein de petits outils américains qui sont utilisés par les enseignants, parfois de manière borderline, hein, parce que normalement, ben, jusqu'à, enfin, là, ça a un peu évolué, mais il y a 2-3 ans, ben, on utilisait ça, et puis il n'y avait pas les RGPD, on ne se rendait pas compte de certaines choses. Donc de manière, ils sont là et Twitter c'est américain, hein, donc il y a des Twitter notes. Twitter est très intéressant pour des même en classe où on commence à apprendre à écrire et à lire. C'est utilisé par des instituteurs. Donc ils sont là. Hein. Je pense pas qu'ils vont imposer. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Ils vont pas imposer le modèle comme par exemple Microsoft aurait pu dire, ben voilà, nous ce qui nous intéresse en numérique, c'est que on forme les gamins à utiliser Word, Excel, PowerPoint, parce que de toute façon, quand ils vont rentrer dans une entreprise, ils vont devoir apprendre Excel, Word, enfin traitement de texte et tableur. Donc c'était ça un peu la philosophie. On est
Oui,
sur
bien
le
sûr.
tronc commun, voilà, on doit former des gens, ils doivent utiliser un ordinateur. Un ordinateur, c'est quoi en entreprise? C'est ça. C'est le back-office, entre guillemets. Et puis après, ben, ils découvriront d'autres logiciels ad hoc ou métiers quand ils seront dans leur entreprise. Aujourd'hui, dans l'enseignement en France et dans d'autres pays, on est plus critique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, hein, vous aviez eu le B2I, c'était ça. C'est est-ce que tu sais utiliser un traitement de texte? Est-ce que tu sais. Voilà, on est sorti de ça. On s'est dit, bah, le numérique, ça peut être autre chose que Word, Excel et PackOffice. C'est l'apprentissage, c'est l'esprit critique sur les réseaux sociaux, hein, notamment les réseaux sociaux ont véritablement montré à l'éducation nationale que c'était pas que Excel et machin qui était important. C'était tout ça, là, comment on navigue dans un environnement où, en fait, tout est diffus, il n'y a pas un tronc commun. Même dans les entreprises, on utilise Facebook. Donc, on est sorti de tout ça. Donc, il y a une pléthore d'offres numériques qui fait que l'enseignant, lui, vraiment, que je disais, il doit être un coordinateur de tout ça, avoir une très grosse culture numérique, hein, et qui fait que ben, on est beaucoup plus armé dans le monde dans lequel on va vivre plus tard. Et donc, GAFAM, pas GAFAM, il n'y aura pas un prédominant. La Google ne va pas avaler l'éducation nationale. Ça a été, à un moment donné, la peur, hein, l'idée, bon, oh, mais ils vont nous avaler. Alors, effectivement, les vidéos, elles sont stockées la plupart du temps sur YouTube. On a essayé d'avoir un Dailymotion qui essaie de s'en tirer, mais c'est pas simple non plus. Donc, effectivement, il y a des guerres commerciales derrière tout ça. Alors, est-ce que, hein, c'est comme Quant, hein, aussi, hein, qui est porté aussi, hein, Quant Junior en France, un modèle un peu franco-français ou européen ou francophone, est-ce qu'on pourra lutter ou pas? Ça, je suis pas devin, mais l'idée, c'est de se dire véritablement, il vaut mieux former des gens à vraiment bien comprendre où ils mettent les pieds et qu'ils puissent utiliser, en aidant les startups françaises ou qui travaillent dans la francophonie, à trouver d'autres petits modèles ou des petits outils sympathiques, hein, parce que comme on disait, souvent c'est souvent les entreprises agiles puisque à un moment donné, Google va devenir un mastodonte, et il l'est déjà. Donc, est-ce qu'il saura être aussi pertinent dans le futur, sauf à avaler les petits, hein, ça c'est ça aussi. Là, on sort de l'éducation, c'est plutôt des stratégies de financement, de propriété, hein, de joint venture et tout ce qu'on veut, hein, des gens qui vont acheter et protéger les entreprises qui vont pas se faire avaler par ses concurrents, parce que c'est ce qu'ils font, hein. Facebook arrête pas de racheter à l'appel des idées parce que ben, leur système ne prévaut plus, hein. Il n'y a plus d'agilité chez Facebook. Donc moi, je n'ai pas de crainte. À partir du moment où, et je crois que le ministère de l'Éducation nationale a compris ça, c'est-à-dire qu'en gros, ils mettent le paquet sur la formation des enseignants en leur donnant un maximum d'ouverture d'esprit et de culture numérique pour se dire, bah, attendez, on va pas manger un système comme un autre.
Et ça permet de développer son propre écosystème sur les usages. Donc on se retrouve et puis petit à petit on a notre propre couleur. Et comme vous le disiez très justement, sur la francophonie, on a une carte à jouer. Étrangement, on serait donc le tiers-monde autour des deux grands que sont les Chinois et les Américains. C'est le fait d'avoir la possibilité d'avoir une troisième voie et qui permet d'avoir un équilibre dans le monde de l'éducation et de la formation. Donc il y a vraiment un enjeu passionnant et c'est maintenant que ça se fait. Donc c'est pour ça qu'on voulait mettre en valeur cette très belle expérience en disant que bravo, parce que d'abord, elle n'avait pas besoin de nous, donc bravo. Donc, et puis surtout, pour que les gens qui ne vous connaissent pas, qui sont plus du monde de l'entreprise et qui se disent ça fait un peu loin l'Ariège, je ne sais pas forcément où c'est un très beau pays et c'est une très belle exemple de territorialisation et ce qui permet dans d'autres territoires de se dire qu'on pourrait faire la même chose, copier, recopier, etc., travailler ensemble pour nourrir cet écosystème, parce que c'est ça qui fait la force, un peu l'esprit de la Silicon Valley, si on veut rester sur ces idées-là, mais c'est le fait de travailler ensemble. Et on n'a pas forcément bien encore l'habitude, mais c'est toute la façon de tisser du lien et de faire une belle toile. Si on est intéressé pour venir, quelles sont les dates pour l'université d'été, si vous les
Alors
avez?
cette année, on va démarrer je crois, le 23 août au 27 août, hein, donc c'est le lundi 23 août, c'est une semaine avant la rentrée scolaire. Et ben, pour tous les détails, vous pouvez aller sur ludovia.fr, qui est le site de l'université d'été en France.
Très bien. Et si on a envie directement de vous poser des questions ou d'apprendre à vous connaître, parce on a apprécié tout ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a un LinkedIn, un Twitter sur lesquels on peut.
Alors moi, le Twitter d'Eric Fourcault, ben c'est Eric Fourcault. Hein.
Bien
Donc
fait, bravo.
c'est pas Banana Smith 77.
Ouais, c'est ça, oui,
Je
c'est un.
j'assume totalement mon prénom et mon nom. Donc si les gens veulent me suivre, il n'y a pas de souci. Sinon, ça va être un Ludovia. Hein, donc on a le compte Twitter Ludovia qui est assez suivi également. Aussi, on a un magazine, hein, donc qui s'appelle Ludomag, qui permet en fait de suivre aussi tout ce qui se passe en matière de numérique éducatif et éducation.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt. Au
Merci.
revoir.
Au
Au
revoir.
revoir à tous.